France Culture. Ils ont changé le monde. Les accords internationaux. Isabelle Lasserre.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série d'été Les grands accords internationaux. L'émission d'aujourd'hui est consacrée à un accord récent, le traité de partenariat stratégique conclu entre la Russie et l'Iran en janvier 2025. Ces détails n'ont pas tous été rendus publics, mais il est la suite logique du spectaculaire rapprochement entre la Russie et l'Iran depuis le début de la guerre en Ukraine. À Téhéran comme à Moscou, le nouveau partenariat stratégique signé le 17 janvier 2025, 3 jours seulement avant l'investiture de Donald Trump, est décrit comme une alliance globale en forme de contrepoids au, je cite, « diktat de l'Occident ». Les enjeux militaires en forment le cœur, et pour cause, la Russie s'est beaucoup appuyée dans sa guerre en Ukraine sur les drones et les missiles qui lui ont été fournis par Téhéran. L'Iran a besoin du soutien militaire du Kremlin dans certains domaines, notamment la défense aérienne et les capacités de production de missiles. Les deux pays parias, sous sanctions internationales, veulent aussi serrer les rangs face à l'Occident et consolider, avec la Chine et la Corée du Nord, cet axe de bouleversement formé par les autocraties qui remettent en cause le système international issu de la Seconde Guerre mondiale. Quelle est la véritable nature du rapprochement entre Moscou et Téhéran ? À quoi sert-il ? L'actualité au Moyen-Orient ayant beaucoup évolué depuis l'enregistrement de cette émission le 26 mai dernier, nous l'avons réactualisée avec le chercheur Benjamin Hautecouverture de la Fondation pour la Recherche Stratégique. Mais pour l'heure, nous parlerons de toutes ces questions avec François Hesbourg, conseiller spécial à la Fondation pour la Recherche Stratégique et conseiller spécial aussi à l'International Institute for Strategic Studies. Bonjour François Hesbourg.
Bonjour.
Un monde sans l'Amérique, c'est le titre de votre dernier livre paru chez Odile Jacob. Citons aussi, car il est pile au cœur du sujet, Le temps des prédateurs, chez le même éditeur. Bienvenue sur ce plateau. Alors, François Hesbourg, qu'y a-t-il dans cet accord qui est un traité en fait ?
Alors, cet accord, il faut d'abord le définir par ce qu'il n'est pas. Ce n'est pas un accord d'alliance. Il n'y a pas de clause d'assistance militaire mutuelle automatique. C'est pas comme l'accord entre la Russie et la Corée du Nord. Ou, pour prendre des exemples occidentaux, ce n'est pas l'équivalent des traités entre les Européens et les États-Unis dans le cadre de l'OTAN, ou entre les États-Unis et leurs alliés asiatiques.
C'est un peu comme le mémorandum de Budapest, c'est-à-dire un traité ?
Non.
Non ?
Ce n'est pas non plus le mémorandum de Budapest.
Donc en 1994 ?
L'accord de Budapest qui a été conclu entre l'Ukraine, les États-Unis, le Royaume-Uni et la Russie, lui ne prévoyait pas de clause de partenariat, alors que l'accord russo-iranien lui-même se baptise partenariat stratégique. En cela, il ressemble aux relations sino-russes, sans aller aussi loin que les rapports sino-russes. Donc, il ne faut pas en exagérer la portée, mais il y a là-dedans, évidemment, aussi des choses très réelles. Il y a, bien sûr, le fait de définir un ennemi commun, toujours utile. Vous avez indiqué qu'il s'agissait bien entendu de l'Occident en général et des États-Unis en particulier. Il y a des clauses, des clauses de non-assistance à tiers. C'est-à-dire, si l'Iran et l'Arabie Saoudite en venaient aux mains, la Russie s'engagerait à ne pas aider l'Arabie Saoudite. Donc il n'y a pas une clause d'assistance militaire mutuelle avec l'Iran, mais on se met d'accord pour ne pas non plus aider les ennemis du partenaire. Et ça vaut vice-versa, si pour une raison ou pour une autre, les Russes se trouvaient en guerre avec tel ou tel pays occidental, et bien là, l'Iran n'aiderait pas le pays tiers. Donc, clause militaire, clause économique, très importante, Et vous savez, on a tous entendu parler des nouvelles routes de la soie entre la Chine et la Russie, avec l'Iran qui est situé sur l'une de ces routes de la soie. Ça, évidemment, ce n'est pas dans l'accord russo-iranien, c'est normal. Par contre, l'accord russo-iranien prévoit un corridor qu'on appelle le corridor nord-sud, le corridor vertical. Celui qui va depuis le golfe Persique jusqu'à Moscou, en passant par l'Iran, le cas échéant l'Azerbaïdjan et l'Asie centrale. Ça, c'est plus aspirationnel que réel, dans la mesure où les rapports économiques tels qu'on les connaît entre la Russie et l'Iran, ça fait moins de 5 milliards de dollars par an. C'est un chiffre qui, au plan financier, est ridiculement faible. Ça ne veut pas dire que les rapports militaires soient ridiculement faibles, on va en reparler. Mais la notion qu'il y ait un corridor de substitution nord-sud par rapport aux routes de la soie, ça relève de la déclaration d'intention plus que de la réalité pour un bon bout de temps encore.
Alors on va rentrer dans les détails, mais je voudrais qu'on écoute aujourd'hui les présidents russes et iraniens Poutine et Pezeshkian à Moscou lors de la signature de ce traité de partenariat stratégique le 17 janvier 2025. C'est une source LCI.
L'accord est important parce qu'il nous donnera l'occasion de donner un nouvel élan à presque tous les domaines de notre coopération. Et cet accord stratégique global préparé depuis des années sera signé aujourd'hui et dans tous les domaines de la sécurité économique, culturelle et commerciale, nous permettra d'accroître et renforcer les relations les uns avec les autres.
Alors François Hesbourg, on va rentrer un petit peu dans les détails. À quoi sert cet accord d'abord pour la Russie ?
Alors pour la Russie, ça scelle du point de vue des textes et des rapports de fait qui se sont établis à partir du début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie, notamment sous la forme de la vente des drones de combat, des drones kamikazes, comme on les appelle parfois,
Shahed,
conçus, développés et en grande partie produits par l'Iran, drones efficaces, utilisés même à très grande échelle. On en est aujourd'hui, au moment où je vous parle, on en est à entre 100 et 200 drones qui sont envoyés par les Russes toutes les nuits contre l'Ukraine.
Et l'Iran a aussi aidé la Russie à construire une usine de drones.
Absolument.
En Russie. Parlez-nous de ça.
Voilà.
Aussi.
Donc au départ, il s'agissait d'une relation classique de fournisseur à client, drones produits en Iran et ainsi de suite. Et il y a eu ensuite un accord, j'allais dire de terrain, en matière de transfert de technologie, avec construction d'une usine au Tatarstan, Yelabouga, je crois, s'appelle le nom de l'endroit, et les Russes ont amélioré, du point de vue opérationnel, les capacités de ces drones. On est passé à 50 kilos d'explosifs, à 90 kilos d'explosifs. C'est beaucoup. Hein. Je veux dire, ça n'a pas l'air d'être énorme. 50 kilos, c'est quelque chose que deux personnes peuvent transporter à la main, si je puis dire. Mais quand vous avez 50 ou 90 kilos qui rentrent par la fenêtre de votre appartement, il n'y a plus d'appartement. Hein. Et cette arme a, dans une certaine mesure, remplacer l'aviation russe défaillante en tant qu'outil de frappe stratégique dans la profondeur du dispositif ukrainien, qu'il s'agisse de cibles civiles, que les Russes n'hésitent pas à frapper pour elles-mêmes, pas simplement par erreur, ou qu'il s'agisse de cibles militaires plus classiques. Et donc ça, c'est une affaire importante dont moi je n'arrive pas à mesurer le flux, mais si vous partez du principe qui est probablement pas totalement faux, que mettons chacun de ces drones avec les effets de série devait, mettons, coûter 20 000 dollars, ben 200 par nuit, vous faites le calcul, ça vous fait tout de suite beaucoup de dollars. Et vous répétez ça 365 fois pour avoir le flux dans l'année. Est-ce que ces drones sont par ailleurs efficaces? La réponse est oui, malgré les très bons scores qu'obtiennent les Ukrainiens en ce qui concerne leur interception ou leur détournement, puisque les Ukrainiens se sont adaptés à ces outils iraniens, notamment en développant des moyens de guerre électronique pour désorienter ces fameux drones. Donc, lorsque vous avez, mettons, 200 drones dans la nuit, vous allez en avoir, allez, une quarantaine qui va passer à travers les mailles du filet ukrainien. Ben, une quarantaine, ça fait beaucoup, ça fait 40 immeubles d'habitation. La contribution iranienne à la guerre, elle est substantielle. Elle n'est pas du tout anecdotique. Et les Iraniens, bien entendu, ils ont d'abord effectivement livré, ensuite ils ont fait des transferts de technologie, et puis maintenant ça se passe aussi en sens inverse, à savoir que les améliorations que les Russes apportent vont bénéficier aux Iraniens, qui ont montré par ailleurs, depuis une petite dizaine d'années, une très grande aptitude à utiliser des drones de diverses sortes comme des outils de frappe stratégique au Moyen-Orient.
Alors on va voir justement à quel point la guerre en Ukraine est un accélérateur du rapprochement entre Moscou et Téhéran. On va écouter un extrait d'un documentaire d'Arte consacré à la revanche des empires.
Le 18 juin 2022, l'imposant avion présidentiel russe atterrit à l'aéroport de Téhéran. C'est la première grande visite à l'étranger de Vladimir Poutine depuis le début de la guerre en Ukraine. Sa poignée de main chaleureuse avec le guide suprême Khamenei, sous le regard du président iranien, l'ultra-conservateur Raisi, dit toute l'importance du soutien de l'Iran à la Russie.
Les origines de la crise ukrainienne ne sont que le résultat de la politique des États-Unis et des pays occidentaux.
Alors, François Hesbourg, on a longtemps parlé des drones, mais il y a aussi une aide de l'Iran à la Russie en ce qui concerne les missiles, non ?
Alors, on en parle beaucoup depuis pas mal de temps, mais j'avoue que pour l'instant, on ne les a pas encore vus sur le champ de bataille, à ma connaissance. Les fusées Fateh 360, notamment, sont des engins efficaces qui permettraient de réduire les temps d'alerte dont disposent les Ukrainiens en cas de détection de départ de missiles, le temps de pouvoir foncer dans les abris. Ces missiles seraient utiles aux Russes. On dit, notamment les sources de renseignement américaines en parlent depuis à peu près un an maintenant, et pour des raisons que j'ignore, qui sont peut-être tout simplement techniques, ça ne s'est pas fait au moment où je vous parle. Est-ce que c'est parce que les missiles sont livrés sans leur lanceur, la plateforme de lancement en l'occurrence, ou pas? Je ne sais pas. Il faut dire aussi que les Russes et les Iraniens ont un problème commun, c'est qu'ils sont tous les deux en guerre. Et lorsqu'on est en guerre, on n'arrive pas facilement à distraire du matériel qui peut être utile pour soi au profit d'un pays partenaire. Lorsqu'il y a un problème au Moyen-Orient, les Iraniens aiment bien tirer les fusées Fateh, toute une famille de missiles qui portent ce nom. Et bien sûr, pour les lancer, il faut avoir des plateformes de lancement. Si vous n'avez pas les plateformes de lancement, vos fusées sont en fait inutilisables. Donc, comme dirait l'autre, on verra. J'ajoute aussi que dans les déclarations publiques iraniennes, il y a celle, à l'époque de la signature de l'accord, celle de M. Araghchi. Araghchi, c'est un négociateur iranien que nous connaissons depuis très longtemps, qui est un vrai expert, non seulement un excellent négociateur, mais c'est aussi quelqu'un qui connaît le fond des dossiers, qui est ministre des Affaires étrangères au moment où nous parlons. M. Araghchi a lui-même souligné que cet accord n'était pas comme l'accord entre la Russie et la Corée du Nord, que ce n'était pas un accord d'alliance. Donc chacun a les mains libres en ce qui concerne le niveau et la densité de l'aide qu'il va apporter à son partenaire.
On va reparler de la Corée du Nord après. J'aimerais qu'on reste un tout petit peu sur la Russie. Est-ce que vous arrivez à évaluer la manière dont, en fait, les drones iraniens et l'aide militaire iranienne a permis à la Russie de poursuivre cette guerre en Ukraine? Si on pose la question autrement, est-ce que la Russie aurait pu se maintenir comme elle l'a fait en Ukraine sans l'aide militaire iranienne?
Elle aurait mis plus de temps. Je crois que c'est la réponse honnête, elle est là. Les armées russes et les complexes militaro-industriels russes ont témoigné, continuent de témoigner, d'une capacité d'adaptation très notable par rapport aux initiatives militaro-industrielles ukrainiennes. En général, ce sont les Russes qui courent derrière les Ukrainiens, mais les Russes courent quand même assez vite. Dans le cas de l'aide iranienne a été un accélérateur important pour les Russes dans le domaine clé des drones. Au début de la guerre, les Russes en matière de drones étaient à peu près aussi mauvais que les États occidentaux. C'est pas parce qu'à la télévision, on nous montre de temps en temps des sujets où on voit les armées françaises ou allemandes ou américaines qui jouent avec des drones. Il faut bien savoir qu'on est très très loin derrière les pays qui ont une vraie expertise dans la matière, à savoir l'Iran, Israël, la Turquie, l'Ukraine et la Russie. La Russie a appris. Les Iraniens ont aidé les Russes à apprendre. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plutôt en sens inverse. Ce sont plutôt les Russes qui permettent aux Iraniens d'améliorer les fonctionnalités de leurs drones.
Alors justement, vous me faites la transition parfaitement, puisque j'allais vous demander en fait la même question, mais d'un point de vue iranien. C'est-à-dire, à quoi sert ce traité de partenariat stratégique pour l'Iran ?
Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que ce ne sont pas les Iraniens qui semblent pousser à la consommation. Quand M. Araghchi explique que ce n'est pas comme l'accord nord-coréen, il n'est pas simplement en train de faire le commentaire depuis le banc de touche. Il est en train de dire, moi je suis content qu'il y ait cet accord, mais enfin, faut pas trop pousser. Il n'y a pas les mots qu'on trouve, par exemple, dans les communiqués entre la Russie et la Chine, où l'un et l'autre pays ont professé une amitié sans limite. Ah ben non, les Iraniens, ils ne promettent pas une amitié sans limite. Ils sont plutôt pragmatiques, en tout cas au niveau de leurs commentaires, et je pense aussi dans leur action contre aux Russes. Le fait est que les Russes, ils peuvent sans doute livrer beaucoup de savoir-faire aux Iraniens, s'ils en ont envie.
Savoir-faire dans quoi ?
Ah ben justement, c'est dont on va parler. Mais ils n'ont pas la capacité aujourd'hui de livrer beaucoup aux Iraniens en termes de masse. La Russie est dans la guerre jusqu'aux naseaux, et lorsqu'elle a promis de livrer des avions de combat à l'Iran...
Des Su-35,
etc.
Des hélicoptères. Des chars.
Il finira par en arriver, mais je pense qu'ils sont pas vraiment en train de se presser. Les chars, les Russes sont en train de presser les derniers éléments du citron de la guerre froide qui était en train de rouiller dans des dépôts pour les envoyer sur le front d'Ukraine parce que la production de modèles nouveaux ne suit pas. Les hélicoptères, et il y a eu quand même pas mal de pertes en Ukraine. Et la Russie avait par ailleurs des contrats d'hélicoptères importants par rapport à des pays substantiels comme l'Inde. La Russie a été obligée de faire savoir aux clients qu'ils n'étaient plus en situation de livrer. Quant au Su-35, là je pense que les Iraniens vont pouvoir regarder pendant longtemps avant d'avoir des Su-35 en situation de fonctionnement opérationnel.
La défense aérienne, les S-400 qui sont réclamés par l'Iran, a fortiori depuis que en fait, l'armée israélienne a détruit la défense anti-aérienne iranienne en octobre 2024 pour répondre à une attaque iranienne contre l'État hébreu. Ça, c'est possible à livrer pour la Russie à l'Iran ?
Ah oui, non, la Russie peut livrer des S-300 et des S-400 à l'Iran, mais la guerre d'Ukraine a montré que la publicité faite autour de ces défenses aériennes était très exagérée, y compris la publicité occidentale, parce que pendant des années, on a expliqué que la bulle de défense créée par ces systèmes était pratiquement infranchissable et qu'il fallait des avions comme les F-35 américains ou les Rafales de dernière génération pour avoir la moindre chance de pouvoir approcher d'une cible, etc. Qu'est-ce qu'on découvre pendant la guerre d'invasion russe en Ukraine ? C'est que la plupart des batteries installées, notamment en Crimée, elles sont parties en fumée. Que tout ça ne fonctionnait pas vraiment comme c'était promis dans le catalogue. Le prospectus exagérait visiblement les vertus de ce type d'engin, et les Israéliens ont effectivement, d'une façon d'ailleurs assez humiliante pour l'Iran, montré qu'Israël n'avait même pas besoin d'attaquer les moyens nucléaires directement, que dans un premier temps, il suffisait d'éliminer sans grande difficulté les moyens de défense aérienne ukrainienne des sites nucléaires. C'est ce qui s'est passé en riposte aux deux grandes vagues d'attaques de fusées iraniennes contre Israël.
En octobre 2024.
Voilà, en avril et en octobre 2024. Donc, pour parler de façon un peu triviale, tout ça pisse quand même moins loin que ce que les uns et les autres pouvaient prétendre de faire. Et les Iraniens, je les ai catalogués dans mon propos ici, je les ai catalogués dans la liste de la poignée de pays qui sait concevoir des drones et qui sait les utiliser comme des outils au niveau opérationnel ou au niveau stratégique, comme très peu de pays savent le faire. Les éléments de comparaison, c'est vraiment la Turquie qui a aidé l'Ukraine à apprendre à utiliser les drones.
Notamment au début de la guerre.
Et notamment au début de la guerre, le fameux drone Bayraktar, la Turquie et Israël. L'Iran, c'est vraiment y faire. Les Saoudiens, en 2019, ils ont perdu pendant 15 jours la moitié de leur production pétrolière parce que les Iraniens avaient envoyé une vingtaine de drones, ce qui n'est pas beaucoup, et quelques missiles de croisière contre les installations pétrolières de l'Aramco au moment même où celle-ci était placée en bourse, donc avec une perte de valorisation boursière qui a dû coûter 100 ou 1000 fois plus cher que le coût de l'opération iranienne elle-même. Les drones et les fusées, ça a dû coûter quelques millions de dollars. Les Saoudiens ont perdu dans cette affaire sûrement milliards de dollars et plus vraisemblablement en dizaines de milliards de dollars. Donc les Iraniens ont, dans un domaine au moins, enfin dans deux en l'occurrence, les drones et les missiles balistiques de courte moyenne portée, les Iraniens ont montré qu'ils savaient vraiment y faire.
Alors, pour revenir à ma question, qu'est-ce qui reste finalement à offrir à l'Iran pour la Russie? C'est de la technologie pour le programme nucléaire iranien? Quel est l'intérêt de l'Iran dans ce traité? On parlera du versant diplomatique et politique après, mais concrètement?
Concrètement, moins que ce que l'un et l'autre ont prétendu y mettre. Et là, il faut faire un peu d'histoire. La Russie et l'Iran ne sont pas des alliés naturels. Historiquement, ce sont des ennemis. La Russie tsariste et la Russie stalinienne ont traité l'Iran, la Perse de l'époque, exactement comme les Britanniques ou les Français l'ont fait, c'est-à-dire en colonisateur et en impérialiste. Et la défiance entre les deux peuples et leurs dirigeants, elle est entièrement mutuelle. Je vais raconter deux anecdotes. La première, ça se passait il y a 7 ou 8 ans, donc c'est pas très ancien, c'était un peu avant la pandémie. Je me trouve dans ma chambre d'hôtel, dans un pays d'Europe de l'Est, où on recevait la télévision russe. Je mets le programme, et là, je vois des images, des gravures du 19e siècle, avec ce qui était visiblement des Russes et des Persans. Et puis j'écoute, et je comprends qu'il s'agit d'un documentaire pour l'éducation du peuple russe sur les horreurs que les Iraniens avaient commises à l'encontre d'un très grand personnage de l'époque, du 19e siècle, qui était l'ambassadeur Gribayedov, l'ambassadeur de Russie à Téhéran. Gribayedov, c'était un des principaux poètes aussi de la Russie. On étudie Gribayedov comme on étudie Pouchkine. Hein. C'est à peu près de ce niveau-là. Pour un Russe, le lynchage de Gribayedov, parce qu'il fut écartelé par la foule, il fut déchiré en morceaux, ainsi de suite. On avait pu l'identifier quelque temps après, parce que quelqu'un avait quand même récupéré un bout de doigt sur lequel il y avait sa bague, et qui avait été reconnu par une personnalité qui faisait partie de l'enquête. Et ça, c'est l'image historique de l'Iranien pour le Russe. Et en sens inverse, ben les Russes, c'est qui? C'est les Cosaques à Téhéran, qui vont d'ailleurs jouer un rôle instrumental dans la création de la dynastie des Pahlavis avec le père de l'ancien Shah, qui va accéder au trône, j'allais dire, malgré les Russes. Et les Russes, les Soviétiques en l'occurrence, vont, avec les Britanniques, l'autre grand ennemi héréditaire de l'Iran, ils vont occuper l'Iran pendant la Deuxième Guerre mondiale. On associe rarement l'Iran à la Deuxième Guerre mondiale, mais en fait, c'était un élément assez important parce qu'une bonne partie de l'aide occidentale, grâce à laquelle l'Union soviétique a pu conduire la guerre contre les Allemands, une bonne partie de l'aide passait par l'Iran. Et pour ça, il y avait les Américains au sud, les Britanniques au centre et les Soviétiques à Téhéran. Ça laisse des traces. Et l'autre anecdote, beaucoup plus actuelle, c'est la saga de la centrale nucléaire de Bouchir. Il y a une centrale électronucléaire...
Fabriquée par les Russes.
Initialement fabriquée par les Allemands.
Gérée par les Russes.
Les Allemands avaient été exotés au moment de la révolution iranienne et les Russes avaient passé un contrat avec l'Iran pour refaire ce qui n'avait pas encore été terminé. La centrale était terminée à 80% au moment de la révolution. Les Russes se mettent au travail avec une sage lenteur. Ils vont travailler dessus pendant 25 ans. Et c'est pas parce que la technologie ne suivait pas, d'autant plus qu'une bonne partie de la technologie, inévitablement, était allemande. C'est l'époque où il y avait des liens économiques très forts entre la Russie, de Yeltsin et de Poutine, et l'Allemagne. Non, les Russes traînaient les pieds parce que, très franchement, ça les défrisait d'aider les Iraniens dans ce domaine. Et par ailleurs, bien sûr, plus ça tardait, plus ça coûtait cher. Les Iraniens ont probablement payé cette centrale à 4 ou 5 fois son prix. Et j'ai souvenir, j'étais allé à Téhéran pour parler des affaires nucléaires à l'époque, donc on est en 2005. Et dans mes rendez-vous, je voyais M. Moussavian, qui était le négociateur nucléaire iranien de l'époque, qui m'accueille fort civilement, et qui me regarde d'un air furieux, non pas moi ne me visant pas, mais visant la porte en disant « Ouais, je viens d'avoir une réunion avec monsieur le ministre russe des affaires nucléaires, on en a assez, ils sont en train de nous rouler, ils sont en train de nous estamper, c'est vraiment des salauds, et ainsi de suite. » Bon, j'imagine qu'il y avait une part de jeu dans ce qu'il me disait, mais son exaspération était quand même assez difficile à feindre. Et les Russes, à leur façon, bon, parce que la Russie de Poutine n'a pas pour habitude de servir des plats aux Occidentaux. Hein. Ce n'est pas sa vocation à la diplomatie russe. Mais la diplomatie poutinienne n'avait pas envie que l'Iran ait l'arme nucléaire.
Mais alors justement, j'allais dire, on pourrait vous objecter deux choses, en fait, François Hesbourg, quand vous relativisez en fait cette proximité entre la Russie et l'Iran. D'abord, il arrive que des adversaires se rapprochent, si on prend Donald Trump 2, qui est en train d'essayer de se rapprocher de la Russie de Poutine, malgré des décennies et des décennies de glaciation entre les deux pays. Et puis, la deuxième chose, c'est que, au moment des négociations de l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien, avant 2015, donc, la Russie était plutôt du côté occidental. C'est-à-dire que, elle ne voulait pas d'un Iran nucléaire et elle soutenait en fait les efforts des Occidentaux pour limiter ce programme iranien. On dit aujourd'hui, en tout cas ceux qui suivent de très près le dossier nucléaire iranien, disent cette résistance et réticence russe a cessé. Aujourd'hui, les Russes encourage davantage en fait la marche en avant du nucléaire iranien. Alors, c'est faux ou pas ?
Alors, d'abord, à l'époque, les Russes et les Chinois faisaient partie de la négociation. Vous avez tout à fait raison. Mais ils ne poussaient pas leur participation jusqu'à rentrer dans le réseau de sanctions que les Occidentaux, c'est-à-dire les Euro-Américains en l'occurrence, ont imposé à l'Iran en amont de l'accord. Les sanctions furent dures et elles furent efficaces. Il arrive que les sanctions soient efficaces, ça a été le cas en l'espèce. Les Russes ont tout simplement partagé les mêmes buts que les Occidentaux, et je pense que là-dessus, ils continuent de les partager, c'est-à-dire la notion d'avoir un centre de décision nucléaire près de ses frontières, qui vous échappe totalement, parce que l'Iran fait sa politique, l'Iran creuse son propre sillon, creuse pas les sillons des Russes. C'est pas la vocation de l'Iran de creuser les sillons des Russes. Et la notion que la Russie va vivre tranquillement avec un Iran nucléaire, les Russes respectent les Iraniens. C'est-à-dire, l'Iran, c'est un pays de 90 millions d'habitants. La Russie, c'est un pays de 140 millions. On n'est pas très loin l'un de l'autre. Alors même si l'Iran n'a pas un niveau de développement militaro-industriel aussi élevé que celui de la Russie, si vous êtes russe, vous n'avez pas envie d'un Iran nucléaire. Alors encore une fois, la Russie ne va pas utiliser les mêmes instruments que nous. La vocation de la Russie n'est pas de servir la soupe aux Occidentaux. Les Russes et les Iraniens ont le même ennemi. c'est l'Occident. Ça, clairement, c'est ce qui est dit dans l'accord. Lorsque le mot « diktat » est employé dans le commentaire du président Pezeshkian, ça veut effectivement dire quelque chose. Mais ça ne veut pas dire que les Russes vont adorer fournir de l'aide nucléaire à un pays, l'Iran, qui est parfaitement capable, par ailleurs, de faire ses propres renversements d'alliance. Vous regardez le cours des relations entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, par exemple. Il y a quelques années, c'était...
au bord de la guerre.
C'était au bord de la guerre. Je te déteste, moi non plus. Et puis maintenant, c'est... ce serait quand même mieux de s'entendre, et ainsi de suite. Sans parler, bien entendu, des pourparlers initiés par M. Trump, qui trouve chez les Iraniens, peut-être... plus de perspectives d'avenir que dans ces discussions russo-ukrainiennes.
Alors, donc là, c'est le moment de rappeler quand même que nous enregistrons cette émission à la fin du mois de mai.
Absolument.
Donc, sans préjuger d'un possible accord entre l'administration américaine et l'Iran.
France Culture, ils ont changé le monde. Les accords internationaux. Isabelle Lasserre.
Juste une question très courte, François Hesbourg. Quand les renseignements occidentaux s'inquiètent en se disant « la Russie a forcément fourni quelque chose à l'Iran en échange de son aide militaire en drone » et disent à mots couverts que ça pourrait être une aide technologique, non pas forcément dans le programme nucléaire stricto sensu, mais dans les missiles balistiques ou autre chose, c'est vrai ou c'est faux ?
On n'en sait rien. D'abord, c'est vrai. Et pour moi, il est évident que le retour d'expérience de la guerre d'Ukraine est un retour d'expérience précieux. C'est-à-dire, c'est pas si souvent que vous avez l'équivalent de la guerre d'Espagne pour tester vos outils, voir ce qui marche, voir ce qui ne marche pas, et de pouvoir les intégrer dans la préparation de votre prochaine guerre avec quelqu'un de totalement différent.
Donc c'est une aide en retour d'expérience.
D'abord, ça saute aux yeux. La saga des Shahed contre l'Ukraine. Bon, les Iraniens ont transféré les Shahed à la Russie, et en contrepartie, il me paraît logique. Il serait hautement anormal que ce ne soit pas le cas, que la Russie transfère à son tour le retour d'expérience des Shahed vers l'Iran. Les Shahed et plus si affinité. Et la plus si affinité, oui. Mais si on prend les missiles balistiques, les Iraniens ont montré que, s'agissant des portées courtes et moyennes, je ne parle pas des portées plus importantes, les Iraniens savent faire. Lorsque il y a eu des échanges contre les Américains en 2020 en Irak, la précision des missiles iraniens était vraiment impressionnante. Je ne suis pas sûr que les Russes auraient su mieux faire dans les mêmes circonstances. Alors évidemment, c'est différent lorsque vous prenez des distances comme Téhéran, Tel Aviv. Là, les Iraniens sont clairement à la peine. Et là encore, je serais très surpris que les Russes aident les Iraniens à développer des engins qui, en cas de renversement d'alliance, pourraient aussi tomber sur le territoire russe. Encore une fois, ces deux peuples et leurs dirigeants ne s'aiment pas. C'est une relation qui, pour moi, est une relation pragmatique et idéologique. Pragmatique dans le sens où, en échange, si on a des choses à s'échanger sans que cela ne porte atteinte aux intérêts directs du type d'en face. Et de l'autre côté, l'idéologie, c'est effectivement tout ce qui embête les Américains, tout ce qui embête les Occidentaux. C'est bon à prendre. Mais encore une fois, il n'y a pas les professions d'amitié illimitées que l'on a dans l'autre relation stratégique, celle entre la Chine
Russie. Qu'on s'arrête quelques minutes, qu'on écoute un extrait d'une interview de Sergueï Karaganov, le conseiller en politique étrangère et en défense proche de Poutine. C'est un documentaire Arte sur la revanche des empires en 2024.
Nous avons compris qu'un nouveau centre du monde allait apparaître et que nous devions nous organiser. Le groupe de Shanghai n'était pas anti-occidental à l'époque, il était pro-oriental. Nous avons lentement progressé vers la création d'un système alternatif à l'Occident. Pas contre l'Occident au début, Mais lorsqu'il a commencé à mener des politiques de plus en plus hostiles, le groupe de Shanghai s'est avéré être de facto contre.
Alors, François Hesbourg, le traité de coopération stratégique, de rapprochement stratégique entre l'Iran et la Russie, dont nous parlons depuis le début de cette émission, il raconte aussi ça, il est très politique. En fait, un de ses objectifs, c'est aussi de consolider cet axe de la contestation qui a deux têtes, la Russie et la Chine, et puis qui va en Iran et en Corée du Nord, avec quelquefois des ramifications différentes dans le sud global, non ?
D'abord, vous avez eu la main heureuse en mettant l'exergue sur cette déclaration de Sergueï Karaganov. Sergueï Karaganov, qui sévit en tant qu'analyste depuis une grosse trentaine d'années, moi je l'ai connu du temps encore de l'Union soviétique, et Sergueï Karaganov était un des inspirateurs réels, il a une vraie influence intellectuelle sur la politique poutinienne, qu'il s'agisse de la relation avec la Chine, qu'il a, avant d'autres, su concevoir et opérationnaliser. Et donc la description qu'il fait, elle est juste. C'est-à-dire, au départ, l'Organisation de coopération de Shanghai, là on est autour du 11 septembre 2001, hein, on est dans ces eaux-là, le premier problème pour chacun est perçu comme étant le terrorisme, le djihadisme, et ainsi de suite. Et à l'époque, c'était évidemment c'est assez largement le cas. Et lui, il a de façon extrêmement fine joué, il s'en est servi comme d'un chausse-pied, pour transformer une relation limitée et pragmatique en un cheval de Troie anti-occidental. Donc c'est vraiment à prendre très, très au sérieux. C'est lui aussi qui va développer le premier, le langage, sur la relation avec les Occidentaux, perçus comme étant les auteurs d'un nouveau diktat style traité de Versailles. C'est lui qui va inventer ce nouveau récit des relations de l'après-guerre froide. Et c'est là où on en est aujourd'hui. Mais comme pour le cas de l'Iran, on est dans un partenariat stratégique, on n'est pas dans une relation d'alliance. Si je prends un parallèle historique, c'est l'équivalent du pacte germano-soviétique première version, août 1939, et non pas le pacte germano-soviétique deuxième version, septembre 1939, où on passe de la convergence des intérêts à une relation de co-belligérance, avec notamment l'invasion conjointe de la Pologne par l'Allemagne nazie et l'Union soviétique stalinienne. La Chine, visiblement, ne veut pas aller vers ce type de relation-là, et la Russie veut l'éviter aussi, pour des raisons très pratiques. La Russie a comme grand partenaire non occidentaux dans le monde, qui sont les grands partenaires économiques, politiques, c'est l'Inde et dans une moindre mesure le Vietnam. L'Inde a de très mauvaises relations avec la Chine. Une alliance obligerait la Russie à prendre parti de la Chine contre l'Inde, alors que l'Inde est un partenaire majeur pour Moscou depuis l'indépendance de l'Inde en 1947. Hein. Et c'est du lourd, comme on dit. Et la Russie n'est absolument pas pressée de mettre en cause cette relation-là. Et mutatis mutandis, c'est le cas aussi par rapport au Vietnam, dont on oublie un peu facilement que c'est un pays de 100 millions d'habitants, avec une croissance économique fulgurante, qui sera, dans les années qui viennent, l'une des plus importantes puissances dites moyennes de la planète. Donc les Russes ne sont pas pressés d'aller vers l'Alliance, et les Chinois non plus. Mais encore une fois, il y a le même ennemi, c'est l'Occident. Donc on cède aux Nations Unies et ailleurs à tenir en lisière les Occidentaux, mais on ne va pas faire le coup de feu sur le front de l'un ou de l'autre. Il n'y a pas de force chinoise reconnue comme telle dans la guerre russo-ukrainienne. Il y a quelques mercenaires, mais c'est pour l'instant en tout cas un épiphénomène. Et il n'y a pas de troupes russes au Tibet face aux Indiens.
Alors j'ai encore une petite question, est-ce que en fait les turbulences que l'on connaît aujourd'hui au sein de l'Occident, entre les États-Unis de Trump qui parfois font mine d'épouser la vision autoritaire de cet axe de la contestation et l'Europe qui s'accroche à ses valeurs, au droit international, etc. Quels effets ça a sur cet axe de la contestation, en fait ? Est-ce que ça le renforce ou est-ce que ça le fait douter ?
Le monde trumpien n'est pas, et au risque de surprendre, n'est pas un monde idéologique. Trump n'est pas amoureux de Poutine à cause de facteurs idéologiques. Il est amoureux de la Russie parce que la Russie est forte. Pour Trump, le péché mortel, il est d'être faible ou de paraître être faible. Vous êtes le meilleur allié des États-Unis. Vous n'avez rien à refuser aux États-Unis. Vous avez des relations historiques absolument magnifiques. Si vous vous appelez le Danemark, vous vous faites écraser. Parce que le Danemark, c'est rien du tout dans la vision trumpienne. Le Groenland n'est pas un objectif idéologique. Le Danemark, c'est n'importe quoi, je l'écrabouille. Le monde de Trump est un monde néo-darwinien, au sens où on employait cette expression il y a un siècle, une sorte de darwinisme social à l'échelle internationale. Ce n'est pas la même chose pour se projeter dans l'avenir pour le vice-président Vance. Ce Vance est un idéologue. Rien de ce que je viens de dire sur Trump ne s'applique à Vance. Vance, dans son fameux discours de Munich, disait que les Roumains avaient tort de contrer les opérations d'influence russe dans le cadre de leur démocratie. Il disait, il faut que les Allemands laissent la voie libre aux néo-nazis pro-russes de l'AFD. Et M. Vance, si M. Trump, pour une raison XY, cesse d'être président avant la fin de son mandat actuel, c'est M. Vance qui devient automatiquement président. Les Européens, eux, nous, on n'a pas le choix. Il va falloir qu'on apprenne à devenir fort. Et ça, c'est pas absolument évident. Mais M. Trump et M. Poutine, ensemble, nous y encouragent de la façon la plus expresse.
Alors depuis, les frappes israéliennes et les frappes américaines contre les installations nucléaires de l'Iran ont changé beaucoup de choses dans la région. C'est de cela dont nous allons maintenant discuter avec Benjamin Hautecouverture. Benjamin, bonjour.
Vous êtes
maître de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique. Ma première question, je voudrais vous demander, que faut-il ou que pouvons-nous déduire de la relation entre l'Iran et la Russie, dont nous avons discuté depuis 40 minutes avec François Hesbourg, depuis la guerre des 12 jours menée par Israël et les États-Unis en Iran? Est-ce qu'elle a changé?
On peut en déduire déjà que ce n'est pas une alliance militaire, à l'évidence. Et là, au moins, on a maintenant un bon élément de réponse pour documenter ce que l'on savait en réalité, puisque le partenariat qui a été suivi, qui a été signé entre les deux pays en janvier, n'était pas une alliance militaire, même si on n'en connaît pas les clauses secrètes. C'était pas une alliance militaire, et c'est même un sujet qui a mis beaucoup de temps à être négocié entre les deux pays pour que ce ne soit pas une alliance militaire. Et là, à l'évidence, la retenue, la prudence et l'observation attentive qui a été celle du Kremlin pendant ces opérations Amkalavi israéliennes puis l'aide américaine a montré que le cadre qui avait été adopté par les deux pays en janvier n'est qu'un cadre qui, je dirais, à l'époque, officialisait un certain nombre de coopérations existantes comme une espèce de gros accord cadre qui posait, affirmait, qui formalisait une relation privilégiée, mais qui n'offrait pas tellement plus que ce qui existait déjà entre les deux pays. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, en janvier 2025, quand ce partenariat a été conclu, personne n'y a véritablement vu un game changer, quoi, que ce soit au plan régional et au plan international. Un game changer, en l'occurrence, c'est un facteur de changement important, historique, structurel, stratégique, que sais-je, de données existantes. Voilà. Donc, l'opération israélienne, puis sa conclusion par les États-Unis, n'a certainement pas changé grand-chose à ce qui existe pour le moment entre les deux pays. Moscou aurait souhaité, du reste, comme d'autres États, comme la France, comme l'Allemagne, comme le Royaume-Uni, un petit peu moins comme la Chine, mais enfin tout de même comme tous d'autres États, la Turquie également, jouer davantage de rôle dans la conclusion de cette affaire et puis dans l'après-cessez-le-feu, mais ça n'a pas été le cas, et pour le moment, on ne voit pas vraiment que ça puisse être le cas, parce que Donald Trump laisse très très peu de marge de manœuvre aux autres dans cette affaire.
Mais alors, les dirigeants iraniens ont essayé d'impliquer Moscou dans cette histoire et en fait, ils n'ont pas eu de réponse de la part de Vladimir Poutine, c'est ça ?
Absolument, ils ont essayé, ils ont tenté, ils n'ont pas eu la réponse voulue parce que...
Qu'est-ce qu'ils demandaient ?
Parce que, alors, je ne suis pas dans le secret de ce qui a été demandé. On peut imaginer la demande d'un soutien plus fort que l'opposition, disons, verbale à l'illégalité de l'opération israélienne, mais ils n'ont eu absolument pas gain de cause. Il n'y a aucune aide militaire, même d'approvisionnement, même de soutien logistique ou de quoi que ce soit qui a pu être débloqué par la Russie. Il faut savoir que ça fait quand même longtemps que les Iraniens demandent beaucoup sur le plan de l'assistance militaire aux Russes et qu'ils en obtiennent très peu. Ils n'obtiennent pas d'aviation, ils n'obtiennent pas les nouveaux systèmes de défense aérienne S-400 qu'ils souhaiteraient avoir. Ils n'avaient que les modèles précédents. Ils n'y parviennent pas parce que le Kremlin est excessivement prudent sur ce sujet, puisque dans une forme de diplomatie militaire très opportune qu'entretient Moscou avec toutes les capitales du Proche et du Moyen-Orient, il faut faire attention à ne pas se braquer et se mettre à dos les Israéliens, les Saoudiens, les Qataris, les Émirats Arabes Unis, etc., avec lesquels les relations économiques et les relations commerciales et financières sont beaucoup plus importantes qu'elles ne le sont avec Téhéran. Donc, pour Poutine, rester prudent sur le plan des engagements militaires est vraiment crucial.
Donc, c'est une question d'alliance, c'est pas une question d'hésitation, enfin de prudence de la Russie vis-à-vis du programme nucléaire iranien, parce que pendant les discussions sur le nucléaire iranien, l'accord de Vienne en 2015, la Russie était plutôt du côté occidental, c'est-à-dire qu'elle ne voulait pas d'une bombe iranienne. Est-ce que ça a changé ou est-ce que c'est toujours pareil ?
Non, probablement que cela n'a pas changé. Il n'y a aucun signe, en tout cas, qui permet d'affirmer aujourd'hui que la position russe sur le nucléaire iranien, je parle bien du programme nucléaire dans sa dimension d'enrichissement. Je ne parle pas de Boucher. On en reparlera peut-être, mais c'est autre chose. Pas le nucléaire civil. Mais sur ce nucléaire, ni vraiment civil, ni encore tout à fait militaire, mais un peu gris, le Kremlin, là encore, est prudent depuis longtemps. Ils se sont convaincus ou se sont laissés convaincre entre 2012 et 2015 par les Européens, par les Américains, de l'opportunité qu'il y aurait de signer un accord qui permette de gagner du temps, ce qui a été acquis en juillet 2015. Mais enfin, les Russes ne partagent pas, disons, c'est le moins qu'on puisse dire, l'anxiété occidentale au regard des progressions, année après année, des programmes balistiques et nucléaires iraniens. En revanche, il serait allé trop loin aujourd'hui que de dire « oui, le Kremlin endosse ce qui serait une stratégie de seuil iranienne ou une stratégie visant à l'obtention d'une arme nucléaire, tout simplement parce que ce serait un risque de déstabilisation majeure du Proche et du Moyen-Orient que ne peut pas se permettre la Russie. Donc je ne vois pas que ni la Russie ni la Chine aujourd'hui permettent à l'Iran d'accélérer une militarisation d'un programme nucléaire qui pour le moment n'est toujours pas, il faut le rappeler.
Alors l'Iran, depuis longtemps déjà, aide Vladimir Poutine dans sa guerre en Ukraine, en lui fournissant des drones, en l'ayant aidé à installer une usine de drones dans la banlieue de Moscou. C'est un peu plus ambigu sur les missiles, on ne sait pas très bien si l'Iran en fournit au Kremlin. Mais que donne la Russie en échange de ces services rendus par l'Iran, qui l'aide en fait dans sa guerre contre les Ukrainiens ?
Alors pour le moment, pas grand-chose. On s'en est bien rendu compte d'ailleurs, parce que dans ce conflit qui a duré 12 jours, si les Iraniens avaient utilisé du matériel nouveau russe, ça se saurait. Or, ça n'a pas été le cas. Or, effectivement, réciproquement, les Iraniens, eux, depuis maintenant 2022, aident les Russes en termes de capacité de drones, et en particulier ces fameux drones kamikazes de type Shahed. Mais depuis quelque temps maintenant, les Russes savent les produire eux-mêmes et ont moins besoin de l'assistance iranienne sur ce sujet. Réciproquement, le soutien de la Russie à l'Iran est important en termes d'hydrocarbures, déjà, hein, puisque la Russie peut fournir tout le nord de l'Iran en gaz, d'une manière moins onéreuse que si l'Iran faisait venir son gaz du sud vers le nord de son territoire. Il l'aide au plan financier. La Russie aide l'Iran sur le plan diplomatique, à l'évidence. Il le soutient, il le fait venir dans cette espèce de vaste coalition antilibérale que les Russes aimeraient constituer en rempart à l'ordre libéral existant, etc., etc. Et puis, naturellement, il y a la coopération nucléaire civile, puisque le premier réacteur de la centrale de Bouchehr a été construit par les Russes, le combustible est fourni par les Russes et rapatrié par les Russes. Ce sont eux qui travaillent sur les réacteurs 2 et 3 de Bouchehr actuellement pour que cette centrale se développe et continue à nourrir la puissance électrique du pays. Donc il y a des coopérations majeures à énormément de niveaux, mais qui ne sont pas forcément des niveaux stratégiques. Il y a également une aide en termes de cybersécurité, en termes de renseignement, en termes de coopération entre les polices des deux pays, qui sont quand même deux pays autocratiques et qui ont besoin de forces de sécurité extrêmement forte et de renseignement intérieur très fort. Là, il y a une coopération très forte entre les deux, etc., etc. Donc c'est un vaste partenariat dont on ne peut pas dire qu'il soit déséquilibré par l'aide fournie militaire par l'Iran dans la guerre d'Ukraine depuis 2022, même si on peut imaginer que les Iraniens se sentent aujourd'hui peut-être un petit peu frustrés, en effet, d'un soutien verbal, rhétorique et uniquement diplomatique par le Kremlin.
Et alors, cette relation, justement, est-ce qu'elle risque d'être déséquilibrée du côté iranien par la guerre de 12 jours, qui a quand même considérablement affaibli l'Iran, à la fois déstabilisé le régime et abîmé les infrastructures nucléaires et balistiques du pays? Dit autrement, est-ce que l'Iran, désormais, aura encore les moyens d'aider la Russie?
Mais probablement que la Russie en a moins besoin aujourd'hui qu'elle en avait besoin au début de la deuxième campagne d'Ukraine de février 2022. Donc de ce point de vue-là, ils en ont peut-être moins besoin. En tout cas, il est sûr que les capacités industrielles en matière de balistique ont été sacrément entamées par les bombardements israéliens et que par conséquent, là, l'Iran ne peut certainement plus fournir ce qu'il fournissait. Mais dans une mesure qui est difficile à dire aujourd'hui, ce serait difficile de dire en quoi cela risque d'obérer l'effort de guerre russe qui est à une telle échelle par ailleurs. Donc je ne pense pas que là, il y ait un facteur qui soit véritablement déterminant. On peut penser à l'inverse et réciproquement, que la Russie va être sollicitée par son partenaire iranien davantage dans les mois qui viennent, précisément pour les efforts de reconstruction nécessaires de ses capacités industrielles et pour une aide militaire qui est devenue nécessaire, absolument essentielle, ne serait-ce que pour reconstruire un petit peu des défenses antiaériennes qui n'existent plus du tout. Le ciel iranien est toujours israélien. Donc oui, on peut l'imaginer.
Et est-ce que les frappes israéliennes puis américaine, finalement, pourrait être un facteur qui renforce et consolide ce partenariat dit stratégique entre la Russie et l'Iran?
Comment dire? C'est un enjeu pas facile, parce que les Iraniens ont bien pu se rendre compte que le partenariat qu'ils avaient noué avec la Russie ne les a absolument pas protégés de la volonté israélienne de les frapper. Donc, ce n'était pas dissuasif. Ça n'a pas été dissuasif du tout. D'ailleurs, rien n'a été dissuasif dans cette affaire, mais en particulier celle-là. Donc, c'est une manière pour les Israéliens, pour les Américains et pour tous les observateurs de conclure ce qu'il y avait à conclure de ce partenariat, c'est-à-dire que ce n'était pas, comme je le disais, un game changer et que ce n'était qu'une mise en ordre de coopération existante qui se sont formalisées dans un partenariat stratégique qui ne changeait pas grand-chose sur le terrain. Bon, les Iraniens ont bien compris que ce n'était pas plus que cela. Est-ce que les opérations israéliennes et américaines changent quelque chose à ce partenariat? Je ne pense pas que ce soit de nature à le renforcer, à lui donner en particulier un volet militaire. Non, probablement non. Pourquoi? Parce que l'Iran est totalement isolé, parce que le jeu est fait par Israël et va le rester pour les années à venir, et que Moscou aurait bien trop à perdre aujourd'hui à renforcer un volet militaire à peu près inexistant entre les deux, ou quasiment, avec un Iran qui n'a plus rien à offrir et qui n'est pas du tout un allié de taille. Donc a priori, c'est plutôt la preuve que ce partenariat ne veut pas dire grand-chose. Et moi, c'est ce que je pense.
Les partenariats, ou plutôt les accords signés entre la Russie et la Chine d'un côté, et la Russie et la Corée du Nord, si on prend les quatre de la bande, sont beaucoup plus solides et beaucoup plus importants.
Sont a priori plus solides et plus importants, absolument. Et d'ailleurs, on l'a bien vu avec l'aide fournie par les Nord-Coréens sur les théâtres ukrainiens depuis l'été dernier. Il y a pour le coup là une dimension militaire avérée, assez forte, un soutien chinois important. Et donc là, on voit beaucoup plus quel est l'intérêt russe de se rapprocher de ses nouveaux amis dans un terrain qui est moins piégeux, j'allais dire, ou moins piégé. Alors que, encore une fois, se rapprocher de manière vraiment générique, historique, profonde, avec l'Iran qui est un peu l'État isolé, paria, dont plus personne ne veut au Moyen-Orient, présente beaucoup plus de risques aujourd'hui pour le Kremlin que d'opportunités à venir. Encore une fois, même si la diplomatie russe est très opportuniste, ils ont beaucoup plus d'intérêt à ménager leurs partenaires, leurs correspondants saoudiens, israéliens et autres dans la région que iraniens. En revanche, effectivement, on assiste depuis un an à un véritable renforcement de la coopération à tout niveau entre la Corée du Nord et la Russie. Et ça, c'est une réalité désormais qui est géostratégique, avec une alliance de fait et de droit entre ces deux États.
J'ai encore une question plus diplomatique, mais on voit que la Russie toque à la porte des États-Unis pour essayer de s'imposer dans le dossier du nucléaire iranien, c'est-à-dire de prendre toute sa place dans d'éventuelles négociations qui vont venir. Est-ce que vous pensez que Vladimir Poutine va réussir à se faire une place, alors que l'Europe n'y est pas arrivée? Et si oui, le cas échéant, quel pourrait être le rôle de la Russie dans les développements diplomatiques à venir?
Là, je pense que la Russie peut effectivement jouer un rôle important et utile. Ils ont proposé leurs bons offices. Bon, c'est peut-être un peu tôt. Il va falloir repenser cette histoire quand la poussière sera retombée. Mais quand la poussière sera retombée, encore faudra-t-il que les inspecteurs de l'Agence internationale d'énergie atomique soient à nouveau autorisés à revenir dans le territoire iranien. Ce n'est pas le cas. Donc pour le moment, les émotions sont trop fortes, les réponses iraniennes sont brutales, violentes, à la hauteur de ce qui s'est passé et de leur colère. Par conséquent, le rôle au moins utile que pourrait jouer la Russie dans les quelques mois à venir serait de parvenir à convaincre leurs partenaires, alliés, que sais-je, à Téhéran de ne pas sortir du TNP. C'est-à-dire, si jamais l'Iran utilise son droit à la sortie du traité, arguant d'intérêts stratégiques mis en cause...
Le TNP, je rappelle pour les auditeurs, qu'il s'agit du traité de non-prolifération.
De non-prolifération nucléaire. Et donc, utilisant cet article 10 pour sortir, aura un préavis de 3 mois, devra poser un préavis de 3 mois. Pendant ces 3 mois... il y aura d'intenses tractations diplomatiques. Et c'est là où la Russie pourrait jouer un rôle important en essayant, en tâchant de convaincre Téhéran de ne pas sortir à l'issue de ces 3 mois du traité parce que Téhéran aurait davantage à y perdre qu'à y gagner. Donc là, probablement que les Américains pourraient s'appuyer sur les relations privilégiées que la Russie a avec l'Iran pour avoir au moins ce gain-là.
Merci beaucoup Benjamin Hautecouverture. Cette réactualisation était absolument nécessaire. Merci François Hesbourg pour ce tour du monde géopolitique. L'heure a sonné de la fin de cet épisode consacré au nouvel accord stratégique entre l'Iran et la Russie. Merci beaucoup encore. C'était
Merci.
Les grands accords internationaux. Une émission d'Isabelle Lasserre réalisée par Laure-Hélène Planchet avec à la technique aujourd'hui Dalia et Alexandre Dang. Attaché de production, Théa Corler. Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission sur le site franceculture.fr.